Oui, bonjour. Tout d'abord, juste, je vous souhaite vraiment une chaleureuse bienvenue à l'Université de Venise. Là. Au moins, je voulais dire juste, voilà, ces mots de bienvenue. Et une précision, là, justement, je parlerai de la dot, puisque dans les discours, mais dans les discours des femmes musulmanes, pour dot, on entend, on se réfère au mari. Donc, c'est dans les discours des femmes, on pense à la dot en tant que celle que le mari va donner à la femme. Donc, c'est juste pour, la, pour les termes. Et là, donc, cet exposé fait partie en réalité d'une recherche qui a commencé en 2005 dans la ville de Meknès au Maroc et menée avec une collègue de l'Université de Fès, Hanan Skat Khatimi. Et la recherche qui sera publiée au cours de cette année concerne les représentations que les milliers marocains musulmans de Meknès s'est fait des juifs et des dynamiques des relations entre juifs et musulmans. Relations qui ont eu lieu il y a deux ou trois générations. Et l'enquête cherche, entre autres, à répondre à la question si un passé de convivence judéo-musulmane, comme celle qui a caractérisé l'histoire des Juifs au Maroc, peut avoir un impact, éventuellement quel type d'impact, sur la façon de se représenter les Juifs d'aujourd'hui et de se représenter soi-même par rapport à ses vécus. Et on a cherché à repérer les traces des mémoires restées et les oublis qui se sont produits. Donc là, je rentre dans les sujets d'aujourd'hui. Donc, dans les représentations que les femmes musulmanes marocaines se font des femmes juives marocaines, le cas de la dot de la femme juive est un cas assez curieux. Le système de la dot dans les deux milieux présente en effet des différences mineures qui peuvent toutefois devenir majeures. Ces différences sont perçues par les femmes musulmanes comme des avantages que la femme juive a par rapport à la femme musulmane au Maroc, en particulier en ce qui concerne la facilité que les maris musulmans ont de divorcer. Les femmes musulmanes attribuent à l'existence de la pratique de la dot parmi les juifs, une dot qu'elles jugent fabuleuse, l'attitude différente envers les divorces dans les deux milieux. On peut considérer les représentations qu'on retrouve parmi les femmes interviewées sur ces sujets comme une forme de mise en scène de la différence de la condition féminine en milieu musulman. Amplifier les avantages de la condition de l'autre permettrait de mieux représenter les mal-êtres éprouvés face à l'inégalité et aux difficultés économiques de la femme musulmane obligée de divorcer, les divorces pouvant facilement être prononcés en l'absence de toute garantie. Fantasmer sur la dot fabuleuse que recevraient les femmes juives marocaines deviendrait une sorte de dénonciation de sa propre condition de discrimination. Dans les milieux musulmans, même si la dot est reconnue comme un bien individuel de l'épouse, elle ne constitue pas réellement un patrimoine autonome de la femme, car aussi bien en milieu rural qu'au milieu urbain, la femme l'utilise pour meubler les foyers conjugaux ou payer la fête du mariage. Je parle bien sûr du milieu musulman au Maroc. Même si l'article 17 de la Moudawana renvoie à l'obligation de mentionner les montants de la dot dans l'acte de mariage, dans la pratique, selon le Centre d'information et d'observation des femmes marocaines, fixer la dot n'est pas obligatoire, puisque les parties peuvent être d'accord pour se marier sans dot. Comme le remarque une professeure musulmane marocaine, donc je cite ce qu'elle dit, en ce qui concerne la dot, la tradition musulmane et en particulier certains hadiths du prophète ont bien précisé qu'elle doit être mentionnée, mais qu'elle peut être symbolique, et ça en vue de faciliter les mariages. Par exemple, sacrifier un anneau en fer, offrir un dinar, voire même réciter une sourate. Or, socialement, les choses ne se passent pas comme ça. Plus un prétendant est riche et de bonne famille, plus on exige une dot élevée. Néanmoins, la somme reste dans la plupart des cas acceptable. Argent, bijoux, vêtements, meubles. On verse les gros de la dot au moment du mariage. Et ça pour aider la famille de la fiancée à préparer la fête et l'ameublement de la future maison. Ce que l'on peut retenir, c'est que l'arriéré de la dot ne constitue nullement pour les musulmans un véritable handicap pour divorcer. Tandis que, En ce qui concerne la dot chez les Juifs marocains, la règle veut que les prétendants s'engagent à verser une somme d'argent énorme, beaucoup plus de ce qu'ils possèdent au moment du mariage. Comme il ne peut évidemment pas les verser, les rabbins qui rédigent l'acte l'inscrivent comme obligé à les verser au cas où il veut divorcer. Morale, dit toujours cette dame, les Juives marocaines sont plus intelligentes que leurs consœurs musulmanes. En fait, même si les témoignages que je viens de citer se réfèrent à des situations plutôt spécifiques à la bourgeoisie, on peut sûrement soutenir que la dot a toujours constitué pour la femme juive une garantie importante en cas de divorce. Elle lui a garanti une protection en lui donnant un statut plus stable que celui des femmes chrétiennes ou musulmanes, même si dans les milieux les plus pauvres, cela n'était pas toujours suffisant. La dot de la femme juive est constituée d'une dot légale, fixée traditionnellement par les communautés, dont le montant varie selon que l'épouse est vierge ou pas, puis d'un douer, mohar, fourni par les maris, sous la forme d'une somme due par lui en cas de répudiation, mais qui sera abolie en cas d'adultère, et de la nedunia. Nedunia, c'est la dot offerte par les pères à la fille. Mais cela devient relevant seulement dans le cas des femmes qui faisaient partie des familles juives très aisées. Un exemple d'une ketubah, c'est le contrat de mariage, fait à Fès, fin 19e, début 20e, qui a été traduit en clip par Elie Malka dans son essai ethnographique sur les Mélas, peut bien illustrer ce que je viens d'affirmer. Et donc je vous cite cette ketubah. Sois mon épouse, selon la loi de Moïse et d'Israël, et moi, avec l'aide divine, je travaillerai pour te nourrir, te vêtir et pourvoir à tes besoins, comme font mes coreligionnaires. Je t'alloue pour ta virginité une indemnité de 200 zouz. Zouz, c'était une ancienne pièce d'argent dont le poids était 3,50 g, représentant les 25 pièces de monnaie argent conformément à la loi rabbinique, et ce, en pourvoyant à tes besoins alimentaires selon l'usage universel. Le mari a augmenté cette indemnité. Cette question de l'augmentation, c'est ce que dans les milieux juifs, on ne parle pas de la dot, donc ce terme c'est vraiment très compliqué. Dans les milieux juifs, on parle de l'augmentation, c'est ça qu'on entend pour ce que d'après les musulmans, c'est la dot. Donc le mari a augmenté cette indemnité qu'il porte à 100 duros espagnols de la meilleure monnaie. Il lui fait don de 100 autres duros. La dot apportée par la femme, consistant en effet d'habillement et literie, est d'une valeur de 100 duros de la monnaie sous-désignée. De ce fait, la totalité de cette kitouba, comprenant l'indemnité initiale suvisée, l'augmentation, la donation et la dot, s'élève à 300 duros de même monnaie, que le cours soit bas ou haut. Fin de la citation. De cet exemple, qui devait concerner un millier relativement modeste, nous pouvons déduire que la dot, même si on en additionne toutes les parties, ne devait pas toujours garantir l'indépendance économique à la femme en cas de divorce, surtout en période de fort changement des cours de valeur. Dans les milieux pauvres, comme l'avait noté Chouraki dans les années 50, même si les parents obligeaient leur gendre au moment de la signature de la ketouba à stipuler une indemnité payable en cas de répudation, cela ne pouvait produire d'effet, car, je cite, le mari jure qu'il n'a aucune ressource et se trouve ainsi délié de son obligation. En plus, le fait que les maris juifs exerçaient un droit de jouissance sur les biens de l'épouse et que dans certains cas, comme on l'a vu, l'accusation d'adultère ou de fautes graves, elle perdait ses droits, affaiblissait encore son statut. Finalement, c'était essentiellement dans les milieux aisés que la dot pouvait constituer un véritable élément dissuasif face au divorce, en ce que le fait de devoir restituer une somme importante alla femme en cas de divorce pouvait limiter les répudations trop faciles et constituer une protection pour la femme juive, dont la femme musulmane ne bénéficiait pas. Afin d'expliquer la surévaluation de la dot des Juifs dans les représentations des femmes musulmanes, il est à noter aussi que lors de la semaine de célébration du mariage, une journée qui appelait Nahar Kimane Sora était consacrée au rituel de l'exposition et de l'évaluation du trousseau. Cette journée, traditionnellement le mardi, qui précédait les pratiques de purification au mikveh, consistait à présenter les trousseaux en présence de des notaires et de décrieurs aux enchères, qui évaluaient les prix de chaque objet en présence des invités et du futur époux. Les prix étaient ensuite majorés de 30% et finalement quadruplés au moment de son inclusion dans la ketubah. Cette somme était celle que les maris auraient dû verser en cas de divorce. Selon une femme peintre juive que j'ai interviewée en Israël, Elisheva Shetrit, qui a peint différents rituels des juifs marocains, il était d'usage de demander aux voisines et aux amis d'amener de leurs objets personnels à exposer durant la cérémonie d'évaluation, afin d'augmenter la somme que les maris auraient eu à verser, objet qui leur aurait été ensuite rendu. Il est probable que les souvenirs des riches expositions et de l'évaluation publique du trousseau de l'épouse soient restés empreints dans l'imaginaire des femmes musulmanes. Toutefois, il faut bien préciser que l'existence de cette dot fabuleuse était toujours niée dans les milieux de la classe moyenne juive, qui préférait expliquer le nombre faible de divorces, toujours dans la classe moyenne, plutôt par l'action exercée par les familles élargies et par les rabbins qui avaient beaucoup d'autorité sur les membres de la communauté et qui permettaient d'arriver au divorce seulement en raison de très graves désaccords dans les couples. Mais dans les discours des femmes musulmanes interviewées, cette dot jouait toujours un rôle considérable. Je cite juste quelques exemples. Une femme enseignante: la femme juive a une grande dot. On demandait 40-30 millions de dinars, une somme qui pouvait correspondre à l'achat d'une trentaine de maisons, comme quoi le mari ne pourra jamais verser cette dot et elles ne pourront jamais divorcer. Une autre femme de la bourgeoisie: les femmes juives demandent des sommes faramineuses. Une femme juive m'a expliqué qu'elle a eu 50 millions de dinars et si le mari veut divorcer, il doit donner comme indennité une somme importante. Donc c'est un moyen pour éviter le divorce. Une vieille dame: les juives demandent une grande dot et la demandent sur table. Il faut mettre l'argent sur table. Si jusqu'ici on a fait référence à une dot concrète et tangible, quoique surévaluée, il faut aussi tenir en conto che dans l'imaginaire des femmes de la bourgeoisie marocaine était aussi présente une autre dot d'ordre symbolique, mais pas moins important que l'autre. On va introduire ici l'idée de l'importance de l'instruction en tant que capital social et humain dont les femmes juives ont commencé à jouir dès la fin du XIXe siècle. L'émancipation des femmes juives au Maroc avait été rendue possible par l'accession à l'instruction, principalement par le biais du réseau des écoles des filles de l'Alliance israélite universelle au Maroc. La première école avait été ouverte à Tétouan en 1868 et l'a fermée peu après et réouvrit en 1882. Dans ce processus, comme a bien montré Francis Malino, un rôle spécifique avait été joué à la fin du XIXe siècle par les mères juives, dans un contexte socio-familial caractérisé par l'absence des hommes, qui étaient partis pour la plupart en Amérique du Sud. En acceptant que les filles partent étudier à Paris aux frais de l'Alliance, voire en les incitant à les faire, les mères cherchaient à garantir un avenir meilleur à leurs filles. Le but était qu'une fois institutrices, ces dernières reviennent enseigner au Maroc. Il s'agissait d'une sorte de dot dont les mères juives commencèrent à doter leurs filles, une dot constituée par des biens immatériaux qui auraient pu se transformer en biens matériaux, car la profession d'institutrice pouvait garantir un futur aux jeunes filles. L'instruction que les filles commencèrent à recevoir contribua à des transformations sociales importantes et à la formation d'un récit que j'ai écouté dans beaucoup d'entretiens avec les femmes musulmanes et d'après lesquelles tout ce qu'il y avait eu de nouveau dans les années 60 pour les femmes au Maroc était arrivé grâce aux jeunes filles juives qui avaient su conquérir des espaces de liberté, dans la mode, l'éducation, l'espace professionnel ou le code de conduite. La dot fabuleuse, qui n'était que rarement telle, comme je cherchais à démontrer, était plutôt la perception d'un statut plus garanti dont jouait la femme juive, et aussi une dotation spéciale d'ordre immatériel, l'instruction. La question de la dot qu'on aurait pu considérer comme un archaïsme, peut en fait être vu comme un élément important qui peut représenter un facteur d'évolution dans les statuts de la femme musulmane. Roberta Shapiro, en se référant à la Grèce, a montré que c'est la dot qui peut donner la parole à la femme en la définissant comme sujet. Grâce à une dot personnelle, la femme a la possibilité de créer une famille nucléaire, de sortir de la famille élargie et donc d'échapper à la soumission de la belle-mère, par exemple. Elle peut avoir une vie autonome, une individualité. Elle a montré comment les pratiques dotales peuvent constituer un élément important de changement, devenir un instrument de passage et marquer la visibilité de ces passages. La dot, cet élément qui marquait les changements, avait dû rester inscrite dans l'imaginaire des femmes marocaines, de la bourgeoisie et dans les récits. Aujourd'hui, les femmes juives et musulmanes marocaines sont confrontées au processus lié à la globalisation et la mobilité migratoire, qui les oblige à reconsidérer dans les nouveaux pays d'accueil les changements de statut personnel et familial qui régissent leur code de comportement au Maroc. Spécialement avec les vagues d'émigration des juifs du Maroc vers la France, les changements advenus dans les systèmes traditionnels de la dot sont considérés comme un risque pour la famille des milieux aisés, qui peut se retrouver appauvrie, privée des moyens des services traditionnels. Ce qui émerge dans un entretien mené auprès d'un juif de la haute bourgeoisie de Meknès, dans lequel on voit tous les enjeux de la dot changer avec la globalisation. Et je cite, « Vous savez, au Maroc, on se marie selon les rites religieux bibliques. Il y a la dot. Elle est valable ici au Maroc. Mais si on sort du Maroc, elle ne vaut plus rien. Et quand on est en France, on se marie selon la loi civile. Et s'il y a la dot, elle est symbolique. Elle n'est pas réalisable. Dans les cas de divorce, c'est grave. L'histoire de la dot, d'après moi, aurait dû être maintenue, car s'il y a un enfant qui sort endommagé, c'est la femme. Pour les femmes musulmanes qui se retrouvent elles aussi dans l'espace de la migration, la confrontation est plus large et se joue avec des femmes qui ont d'autres statuts et qui appartiennent à d'autres milieux. Et il n'y a plus seulement la confrontation avec la femme juive, la voisine d'antan. Pour conclure, beaucoup sont les enjeux des petites ou grandes différences dans les domaines du statut personnel de la femme juive et de la femme musulmane marocaine. Le fait que la femme juive ait eu accès à l'éducation ainsi au monde du travail avant la femme musulmane ne lui a pas seulement permis de remettre en question le système patriarcal en vigueur et modifier son statut au sein de ce système, mais aussi d'influencer la condition de la femme musulmane appartenant aux classes moyennes marocaines. Ce dernier aspect, qui fit un autre effet produit par l'action de l'Alliance israélite universelle concernant l'univers féminin, reste encore un phénomène largement sous-évalué. Le nouveau modèle adopté par les femmes juives qui mettaient en scène des formes d'émancipation féminine pouvait être l'objet de commentaires, d'observations, de comparaisons par les femmes musulmanes. Cela fut possible en raison du fait que les frontières intercommunautaires au sein du monde féminin des classes aisées furent plus poreuses que celles d'autres secteurs de la société marocaine. Ainsi permirent des échanges de plus forte intensité et de grande densité. La communication quotidienne des femmes des deux communautés était riche et vive et a laissé des traces indélébiles qui peuvent être perçues encore aujourd'hui dans les récits des femmes musulmanes. Les femmes juives racontaient beaucoup de leur vie, de leurs conditions et de leurs attentes à des femmes musulmanes très attentives et prêtes à réfléchir sur les petites ou grandes différences des statuts de la femme. La communication et la fréquentation entre femmes, surtout des couches aisées, a permis de fantasmer autour de la dot fabuleuse de la femme juive, celle nommée dans la Ketouba, celle montrée dans l'exposition du trousseau et celle immatérielle et symbolique constituée par l'instruction. L'attention portée par les femmes musulmanes aux différences des statuts de la femme juive peut s'inscrire dans un processus de changement et d'évolution. Merci.